Bonjour Nourit Aviv.
Bonjour.
Nourit, vous êtes réalisatrice, vous avez réalisé 13, 14 films, bon, non, vous ne le savez même pas très bien. Vous avez également réalisé l'image d'une centaine de fictions et de d'autres documentaires pour des réalisateurs comme Agnès Varda, Jacques Doyon ou Amos Gitaille, entre autres. Vous êtes également la première femme qui a été reconnue par le CNC en France. Vous êtes lauréate du prix Édouard Glissant 2009. Et enfin, Nourit Aviv, vous êtes professeur dans des écoles de cinéma en Allemagne, en France et en Israël, dans les trois langues que vous maîtrisez. Et si je parle de cette langue, c'est que c'est un sujet de réflexion depuis plusieurs années. Ont été réunis dans une trilogie trois DVD dans lesquels vous vous interrogez sur l'hébreu et vous poursuivez également cette réflexion sur la langue avec un prochain DVD là, qui va paraître dans quelques mois et son titre c'est « Signé ». C'est ce nouveau documentaire où vous vous interrogez sur la langue des signes. Alors, je reviens un instant sur la trilogie qu'on peut trouver à la FNAC, hein, partout. Ce sont plusieurs documentaires, très beaux documentaires, sur lesquels vous vous interrogez sur la langue hébraïque, sur la langue aussi qui est une langue spéciale parce qu'elle est à la fois sacrée et parlée. Dans le premier documentaire, vous vous interrogez sur le passage d'une langue à l'autre. Vous donnez la parole à des intellectuels, des personnalités israéliennes. Ce sont des écrivains, des poètes, des artistes qui livrent leur propre expérience de passage entre la langue des parents à la langue que l'on parle dans la rue, la langue du pays. Dans le second DVD, langue sacrée et langue parlée, plutôt second documentaire, c'est le conflit qui existe au sein de ce pays où il y a cette langue qui est à la fois une langue du passé et puis il y a la langue du quotidien. Est-ce qu'il y a un conflit d'ailleurs? Est-ce qu'elles sont mêlées? Voilà, il y a des interrogations et ce sont encore des artistes, des personnalités qui livrent leurs sentiments. Et puis, troisième beau documentaire qui s'intitule « Traduire ». Et là, vous donnez la parole à des traducteurs étrangers qui expriment dans leur propre langue maternelle les difficultés ou tout simplement leur plaisir d'avoir pu traduire l'hébreu, donc de s'être introduit dans la littérature hébraïque et le traduire dans leur propre langue. Nourit, si vous continuez de parler encore de la langue là prochainement avec Signé, c'est que c'est quelque chose qui vous fascine mais qui n'est pas réglé en vous. Est-ce que la langue pour vous c'est encore une problématique?
Absolument. Je crois que si je... Moi, je prétends que je suis analphabète en quatre langues. Et bon, je crois que comme ces langues, comme il y a tous ces passages de l'une à l'autre, et l'émotion dans l'une, dans l'autre, et je crois que ce n'est pas réglé. Et si c'était réglé, je n'aurais pas fait de film. Je crois que je questionne les autres par rapport à ça.
Est-ce que plus profondément, c'est une problématique liée à la communication avec les autres? Ou à votre identité, peut-être?
Ah, je ne sais pas. Bon, le mot identité, je ne sais pas trop ce que c'est. Et je crois que les identités sont mouvantes, dynamiques. Vraiment, je sais. Il y a comme ça des mots que je ne sais pas. Que je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est l'origine. Je ne sais pas ce que c'est l'identité.
Quelle est votre nationalité, Nourit?
Je suis toujours bi. Hein. Je suis française, je suis israélienne.
Allemande.
Je dis que je suis bilingue, mais il y en a plus, hein, mais quand même. Ma première langue, c'était l'allemand. Hein.
Eh oui.
Mes parents, à Tel Aviv, m'ont parlé en allemand.
Quelle est la langue qui vous vient le plus facilement?
Ça dépend. Dans quel pays je suis, qui j'aime, de quoi j'ai rêvé, dans quelle langue j'ai rêvé.
Vous passez de l'une à l'autre facilement?
Parfois, je ne me rends même pas compte que je passe de l'une à l'autre.
Ah, oui. Oui.
Mais parce que quand il y a des interlocuteurs qui parlent aussi plusieurs, ça m'arrive souvent de passer de l'une à l'autre. Mais là, s'il y a, c'est-à-dire si par exemple on parlait en français et tout d'un coup on passe à l'hébreu, à l'allemand, et tout d'un coup je vois que les autres, ils me regardent et je comprends que maintenant ils ne comprennent plus. Et j'ai compris que j'ai passé à une autre langue.
Ouais. Et si je vous demande quelle est votre langue maternelle, peut-être que ça peut vous aider?
Justement, mon film d'une langue à l'autre commence comme ça. Et quand on me demande quelle est ma langue maternelle, je ne sais pas répondre. Mm-hmm. Mais ça dépend comment vous définissez le maternel. Hein. C'est-à-dire, on m'a parlé en allemand, donc il faut croire que c'est la maternelle, mais ce n'est pas celle que je maîtrise le plus. Et il y a des gens qui disent, la langue maternelle, c'est celle dans laquelle on compte. Bon, je ne compte pas en allemand.
Ah oui.
Mais je peux parler. Mais je reviens de Munich où j'ai enseigné. Je donnais une masterclass en allemand.
Ouais.
Si je ne trouve pas un mot, il y a toujours... Je peux les dire dans une autre. Il y a toujours des gens qui vont
comprendre.
Qui vont m'aider à traduire. Mais bon, je parle couramment.
Hein. Est-ce que quand vous enseignez justement dans ces trois pays différents et que vous utilisez ces trois langues différentes, vous adaptez votre mode d'être, de pensée, de comportement? Est-ce que vous changez de personnalité en changeant de langue?
Que sais-je?
Vous ne savez pas. C'est vous en
mais
tout
non,
cas.
Mais non, ce n'est pas moi qui sais, mais c'est vrai que chaque langue... Je crois qu'on ne dit pas la même chose. On ne dit pas la même chose, on n'a pas les mêmes relations.
Mm-hmm.
Même corporelles. C'est-à-dire, je crois qu'on parle autrement, mais comment exactement, je ne peux pas le dire. Je peux pas le dire, mais c'est une question que j'ai demandé aux autres.
Ouais.
Quand je fais d'une langue à l'autre, j'ai parlé à des poètes surtout et des écrivains. Ceux qui écrivent dans une langue qui n'est pas la langue, disons, de la maison.
Les traducteurs dans votre documentaire Traduire disent bien qu'ils doivent, pour traduire la littérature, la poésie
hébraïque,
ils doivent pénétrer à l'intérieur de l'auteur, comprendre quel était son contexte, sa vie et puis sa pensée. Donc, il y a, lorsqu'on adopte une autre langue aussi, un autre comportement sous-jacent. Mais c'est peut-être trois facettes différentes de vous-même.
Mais je crois que traduire, je crois que c'est là où on ne peut pas mentir. C'est-à-dire que quand on traduit au moment... Et ce n'est pas les traducteurs qui ne peuvent pas mentir. Je parle que les traducteurs, ils vont voir si l'auteur, il a... glisser sur quelque chose, parce qu'après, lui, il ne peut pas traduire. Je crois, Benjamin a même dit que dans le moment, dans la traduction, il y a la langue d'avant la langue, etc. Quelque chose qui est entre. Je crois beaucoup à ces lieux qui est entre, entre.
Mm-hmm. En tout cas, vos documentaires qui sont très impressionnants parce que vous donnez la parole à ces personnalités et ça se fait de manière très sobre, très, très simple. On a le sentiment que vous arrivez à capter vraiment une infinie sensibilité, quelque chose de très profond chez ces personnes-là. Comment ça s'est passé? Comment vous avez réalisé ces,
vous voyez,
ces entretiens?
Ça passe pas du tout comme ça se passe entre nous maintenant.
Ah non.
Ça veut dire que c'est vraiment très préparé et très travaillé. Et c'est des rencontres avant dans lesquelles on définit quelque chose qui... C'est pas je parle pendant 2 heures et je garde 5 minutes. Mmh. On vise les 5 minutes depuis le début.
C'est ça.
Donc ici
parce
aussi on vise,
ils ont
mais
la
on est,
oui. Oui, ils ont une parole quand même très fluide. Ils maîtrisent ce qu'ils veulent dire, mais c'est quand même très en profondeur. Hein. Ce sont des choses très intimes.
Oui, très intimes et très. Moi, je voulais vraiment sortir et c'est pas évident l'essentiel en 5 minutes.
Oui.
5 à 7.
Alors, prenons par exemple le premier documentaire d'une langue à l'autre et cette intervention de Aaron Appelfeld qui est très émouvante. Il dit notamment « j'ai eu tellement de difficultés, ça a été tellement dur d'apprendre l'hébreu. » Bon, il a une histoire que l'on connaît avec de nombreuses langues derrière lui. Que parfois, la nuit, il se réveille avec cette angoisse d'avoir oublié l'hébreu.
Oui, mais c'est vrai que Dieu nous garde l'Alzheimer, mais
oui.
On a vu des personnes, surtout en Israël, j'ai vu, qui sont revenues, c'est-à-dire je connais vraiment notamment une amie dont la mère, et tout d'un coup, qui a toujours parlé en hébreu avec elle, et tout d'un coup, elle s'est mise à parler les Russes et les Polonais, c'est-à-dire qu'elle a gardé quand même deux. Et bon, je crois qu'à Appelfeld, c'est un peu vraiment l'angoisse qui peut arriver. Quelle langue, si jamais, bon, quelque chose, quoi, ben bon,
oui.
Dieu merci,
oui.
Jusqu'à la dernière minute, il a gardé tout.
Oui. Et puis dans le second documentaire, là, on parle plus précisément de l'hébreu, du caractère même de l'hébreu. Entre l'hébreu et l'hébreu. Quelle est la spécificité de l'hébreu par rapport à toutes les autres langues?
Bon, on ne va pas faire maintenant l'histoire de l'hébreu, mais on sait que c'était une langue que... Et moi, je crois qu'elle n'était jamais morte parce qu'elle était toujours transmise et qu'il y avait toujours, on a toujours inventé des mots nouveaux.
C'est pour ça que vous dites langue parlée et non langue vivante.
Je dis langue sacrée, c'est la nomination de la langue dans les langues juives. On dit à Yiddish, Loishen Kodesh. Bon, c'est ce nom, hein. Elle s'appelait langue sacrée, Loishen Kodesh. Et une fois qu'on commençait à la parler, elle était donc langue parlée. On va faire une rencontre autour de ce film au Centre Bernard Lazare le 21. Mm-hmm. Et je vais discuter, parler avec Keren Mok, qui, elle, a fait un doctorat qui est évidemment beaucoup plus profond et large que mon film peut être dans une heure, qui s'appelle « Du sacré au maternel ». Donc, ça revient, maternel et parler, c'est parler de la mère à son fils. Tandis qu'avant, c'est parler au père, au fils. Mm-hmm. Et bon, après, un jour où c'est parler de la mère à son fils, elle a pris un autre tournant. Hein.
On va rappeler justement ce rendez-vous. Effectivement, le jeudi 21 juin, on va vous retrouver au Cercle Bernard Lazare. Alors, pour une après-midi qui va s'étirer vers le soir, d'abord à 15h, il y aura la projection du film Mesafa, Lesafa. C'est d'une langue à l'autre. Oui. Et c'est donc cette expérience du passage de la langue, entre guillemets, maternelle à l'hébreu. Et puis, à 20h30, la projection du film Langue parlée, langue sacrée, et ce sera suivi donc de ce débat que vous avez évoqué avec Keren Mok, auteur de Hébreu, du sacré au maternel, et le débat sera mené par Cécile Rousselet, c'est donc au Cercle Bernard Lazare. On se sépare quelques instants, Nourita Vive, et on se retrouve juste après. Ah oui. Et on se retrouve dans la seconde partie de notre émission. Ce matin, nous sommes en compagnie de Nourit Aviv, réalisatrice qui a réalisé plus d'une dizaine de films, qui a été aussi la chef, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça,
chef hop,
pour une centaine de fictions, pour des réalisateurs comme Agnès Varda, Jacques Doyon ou Amos Gitaï. Vous êtes vraiment reconnue en France et ailleurs, mais surtout en France, vous êtes la première femme qui a été reconnue par le CNC. Chef opératrice, absolument. Et puis vous êtes lauréate du prix Édouard Glissant 2009. Et puis professeur, on l'a dit. Vous avez réalisé.
Il y avait une rétrospective à Beaubourg.
Oui, vous avez eu une rétrospective avec 40 films, vous m'avez dit.
Oui, quarantaine de films, oui, mais des films dont j'ai fait l'image, des films que j'ai réalisés.
Oui.
Et des films que j'ai invités.
Et puis, on peut aller aussi sur votre site internet découvrir des rencontres que vous avez faites, notamment concernant le prochain.
Pas le prochain, il est déjà derrière
il est déjà,
nous.
Non, il est déjà non, signé. C'est derrière signé. Vous, mais c'est pas pour nous, c'est encore devant.
Il était passé pendant 3 mois au 3 Luxembourg. Hein.
Et on va pouvoir le trouver en DVD dans
le 16 octobre.
16 octobre, vous voyez
à l'édition Montparnasse.
Et c'est signé. Et c'est là encore, il s'agit de la langue. Et c'est de la langue des signes. Là encore, il s'agit de communiquer.
Des langues des signes, hein. Au pluriel.
Des langues. Et c'est ça qui est étonnant. Alors, si vous êtes passé de la langue parlée à la langue des signes, est-ce que c'est parce que c'est une langue plus chaleureuse, plus sensuelle? Là, on touche,
D'abord, ce qui est important de dire, que c'est une langue à part entière, qu'elle a un syntaxe, une grammaire, et c'est pas une langue, c'est des langues. Uh-huh. Tout le monde croit que c'est universel, qu'il y a une langue, uh-huh. Mais il y a beaucoup, beaucoup de langues.
Ça veut dire qu'il y a la langue des signes française, l'allemande, l'israélienne, etc.
Oui, mais ah, oui. Par exemple, en Israël, il y a plusieurs, c'est là-dessus, c'est le film. Il y a même des langues émergentes. Il y a un petit village palestinien qui s'appelle Kfar Kassem, et là, il y a une langue des signes qui a émergé, et il y a une langue bédouine aussi qui a émergé au début du siècle dernier. C'est-à-dire que si dans un endroit isolé, il y a beaucoup de sourds, ils vont inventer avec avec leur famille autour, ils vont inventer une nouvelle langue. Il y a encore aujourd'hui, dans des îles brésiliennes, de langues qui naissent, qui peuvent encore naître.
Ouais. Elle évolue comme la langue parlée, enfin la langue sonore.
Oui, complètement. Ouais. C'est-à-dire que... Mais la langue... Bon, il faut dire que ces gens, ils parlent, donc c'est une langue parlée, mais en gestuelle. Oui, je sais.
Mais c'est difficile.
Oui, c'est difficile. Moi, aujourd'hui, j'ai compris qu'il faut dire vocal,
vocal ou
et gestuelle.
Oui, c'est ça.
Vocal et gestuelle, c'est-à-dire... Mais c'est des langues fascinantes qui sont vraiment... Et plus, bon, j'ai fini le film, il est... D'ailleurs, on peut encore le voir là.
Oui, alors attendez, il y a un rendez-vous là prochainement, c'est le 26 juin, oui. À 19h40 au cinéma L'Entrepôt, c'est au 7 rue Francis de Pressensé, c'est dans le 14e, et là, le film va être diffusé, et vous serez là.
Oui.
Vous serez là, Nourrit. On peut aller vous
Je l'accompagne toujours, mais déjà demain, non, après-demain, je suis à Marseille.
Après-demain, vous êtes à Marseille, oui, le 17 juin, et c'est aussi pour signer. Hein, c'est au cinéma Le César à Marseille, et c'est à 11h si vous passez à Marseille. Allez voir Nourrit Tavi, vous serez là aussi pour
César,
accompagner.
Et il y a une table ronde avec un psychanalyste qui s'appelle André Ménard, qui travaille en psychanalyse en langue de signes. C'est extraordinaire. Depuis 40 ans, il travaille... En psychanalyse, en langue des signes.
Justement, au terme de la réalisation de ce documentaire que vous avez fait sur la langue des signes, est-ce que vous avez décelé, outre le fait que ce n'est pas sonore, des grandes différences ? Est-ce qu'on perd quelque chose quand on n'a pas la parole, quand on n'a pas le son ?
Mais non, non,
est-ce que c'est la
au contraire, c'est moi, je ne dis pas la même, c'est une autre. Ah, mais bon... Moi, je crois qu'il n'y a aucun handicap, ces gens. Au contraire, quand je suis avec eux, ils rigolent beaucoup. Moi, je ne comprends pas. Je comprends un peu, mais c'est moi qui est handicapé. Ça, c'est comme quand on est, je ne sais pas, en Chine, où si on ne parle pas la langue, on ne sait qui est handicapé, c'est lui qui ne parle pas.
Ouais.
Donc, c'est, au contraire, c'est des langues qui ont beaucoup... C'est des langues où il y a... D'abord, elles sont en 3D. Donc, ça se passe dans l'espace.
Ouais.
On peut parler, on peut faire simultanément plein de choses. On passe d'un rôle à l'autre.
Et puis, il y a les mimiques du visage aussi.
Mais
il n'y a pas que les mains.
Ce n'est pas mimique, c'est des signes précis, c'est des signes codés. Vous autres, vous croyez qu'ils font des mimes, mais vous ne savez pas que c'est des signes codés.
Enfin, c'est quand même des émotions qu'ils passent dans le visage. Quand
C'est avec, mais les signes, il est codé. C'est-à-dire, il n'est pas... Et on croit qu'ils sont très expressifs. Non, ils utilisent, c'est beaucoup, beaucoup la grammaire dans le visage.
En tout cas, on a le sentiment qu'on découvre un vrai univers. On rentre dans un monde. Il y avait le film, vous vous souvenez, le monde du silence, ce film des années...
Oui, il y a plusieurs films sur le son. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est cette chose formidable des langues. Mmh. Et des langues vraiment au pluriel, qui sont différentes l'une de l'autre. Mmh. Et qu'il y a un monde que l'humanité est capable de ça. Je crois que... Et à partir de là, si on a accepte cette chose qui est évidente, hein, qu'il y a beaucoup de langues de signes, ça nous amène à réfléchir sur ce que c'est les langues humaines, quelle est notre perception des langues humaines. Et ça n'a pas manqué, bon, grâce au film, c'est pas moi qui me vante, mais il y a des groupes psychanalytiques qui vont travailler cette année autour de langues de signes. Et moi, je suis étonnée comment les philosophes n'ont pas traité cette question avant. Mais maintenant, ça commence à se faire. Il y a même un psychanalyste qui a dit, après le film, que tout le groupe analytique devait voir ce film.
Ah,
donc,
oui.
Ça ré-questionne la langue.
Oui.
Et d'un autre point de vue, et c'est ça qui me plaît beaucoup.
Votre documentaire sera visible pour les personnes qui utilisent les langues de signes, hein, pour les personnes
malentendantes. Sous-titré, il va sortir, et le DVD qui va sortir sortir sous-titré en 3 langues, c'est-à-dire il va être sous-titré en français, anglais, hébreu.
Mm-hmm.
Et je crois que j'ai beaucoup plus travaillé sur les sous-titres que sur le montage.
Ah oui, pourquoi ?
Mais parce que vous imaginez, d'abord j'ai placé les sous-titres à l'image. Chaque plan, il a les sous-titres à un autre endroit où ça me paraissait le mieux. Donc, j'ai beaucoup travaillé les sous-titres en tant qu'image.
Mmh.
Et en plus, il fallait que je comprenne, parce que vous savez, entre 1 et 5 secondes, on change les sous-titres, même si c'était traduit, il fallait que je comprenne. Et je fais ça avec mon assistante Rim, qui était géniale, et qu'on a essayé de repérer où finit la phrase. base, hein, en langue des signes. Oui. Donc, pour placer les sous-titres là, c'était vraiment un travail passionnant, mais qui était très, 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 très long. Et en trois langues. Hein.
Et en trois langues. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ou quel est le message qu'ils vous transmettent? Vous, l'entendante, ceux qui sont malentendants, qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire à nous par rapport à leur langue?
C'est que il y a une richesse incroyable qu'ils nous transmettent à nous tous par rapport à ce que c'est une langue. Vraiment, pour moi, c'est extraordinaire. Ça repose la question. Ça repose la question de qu'est-ce que c'est les langues humaines.
Est-ce que c'est une identité aussi, cette langue des signes?
Et les sourds la revendiquent très, très fort. Ils écrivent même sourd avec un grand S, comme les juifs revendiquent d'écrire juif avec un grand J. Vraiment, c'est du même ordre.
C'est une communauté quand même à part, alors en tout cas.
Communauté qui a des spécificités à elle, mais qui fait partie, évidemment, je veux dire, comme les juifs, non?
Oui, bien sûr, bien sûr.
Et bon, surtout que je crois que des communautés qui sont en lutte pour être reconnues, il y a quelque chose d'encore plus fort de volonté de se reconnaître, bon, de cette identité-là. Comme moi, je vous dis que je ne sais pas ce que c'est une identité, et comme pour moi, les identités sont mouvantes, et voilà, évidemment, je peux comprendre cette lutte maintenant, qui est très importante parce que cette langue était interdite pendant des siècles et des siècles. Elle était interdite et les sourds n'étaient même pas reconnus comme être à part entière. C'est affreux. Mais les langues étaient interdites. Donc imaginez, mais les langues ont résisté. Et malgré qu'aux écoles, c'était interdit, c'est à la récréation, c'est dans les clubs de sport, c'est dans ces langues, je dis vraiment, ces langues ont résisté. C'est des langues de résistance.
Ce sont des langues vivantes et qui permettent de faire vivre les gens aussi.
Oui, pour moi, c'est vraiment un monde. Ouais. Je n'arrête pas.
J'ai l'impression que ça vous a bouleversé, ce documentaire.
Ah oui, c'est vraiment. Pas le documentaire, c'est la rencontre avec ces mondes. Ouais. Et les langues, mais ce n'est pas seulement les sourds, c'est beaucoup les traducteurs qui sont des personnes extraordinaires, les interprètes. Là, je suis celle parce qu'au cinéma, au Trois-Luxembourg, le film est passé pendant 3 mois. Ouais. Et il y avait 3 débats par semaine. Et les débats des mardis étaient accompagnés d'une interprète et qui s'appelle Monique Gendron. Et elle, maintenant, je ne l'ai vue plus après, quand tout est fini. En fait, je commence à comprendre. Hein. Elle m'explique les choses les plus extraordinaires. Et ces interprètes sont vraiment, c'est toujours les passeurs, les Hébreux. La Havor, c'est eux les Hébreux, en fait, parce que l'hébreu, vous savez que le verbe, c'est passeur, l'hébreu, avar, lavor,
ivri. C'est la même racine.
Oui, c'est la même racine, c'est les passeurs, l'hébreu, c'est les passeurs. Donc, je crois que les traducteurs, et ça, c'est toujours, j'ai vraiment envie de faire un autre film avec les traducteurs.
Vous devancez ma question, je voulais savoir si cette réflexion autour de la langue, de l'importance de la langue, ce que ça représente, etc., est-ce que pour vous, c'est une réflexion qui vous paraît close et que vous allez passer à d'autres thèmes ou non? Alors, apparemment, non.
Non, pas du tout, au contraire, ça j'ai l'impression de commencer.
Vous ouvrez quelque chose. Vous avez ouvert un monde, les portes d'un nouveau monde. Est-ce qu'on peut tout dire avec les mains? Est-ce que vous a semblé qu'on peut tout dire?
On peut tout dire, mais ce n'est pas que les mains. C'est les visages et le reste du corps. C'est très, très important. Quand je fais ça en langue des signes israélienne, donc je monte les sourcils. C'est le point d'interrogation. La même phrase que je dis sans ça, elle dit, je ne sais pas, vous êtes en train de vous écrivez, et si je lève le sourcil, je dis, est-ce que vous écrivez?
C'est ça. En fait, vous devriez faire peut-être un documentaire sur l'italien, c'est l'association des mains et de la voix.
Oui, mais elles ne sont pas... Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas codé. Clairement.
Donc, il faut bien comprendre qu'il y a une langue avec ses règles. Et c'est ce qu'on va découvrir.
Avec ses règles qui sont ouvertes. Il y a beaucoup de poésie. Il y a des poètes en langue des signes.
Ah oui.
Il y a des lapsus en langue des signes.
Donc il y a vraiment un monde à découvrir pour nous les entendants, et on n'a pas on est loin d'avoir compris un peu le
donc vous comme vous avez dit là il y a encore une projection à l'entrée mais en octobre il y a vraiment beaucoup, il y aura une semaine autour de mes films à Montreuil avec une masterclass, il y a à Aubervilliers les beaucoup 16 de choses octobre, à voir.
Alors,
etc.
Je vais annoncer tout cela. Donc, on vous retrouve déjà après-demain, le 17 juin, au cinéma Le César à Marseille. C'est à 11h. Ensuite, un rendez-vous au Cercle Bernard Lazare le 21 juin à 15h pour la projection de Mise à Fa, Les Affas d'une langue à l'autre. Et à 20h30, projection du film Langue parlée, langue sacrée, avec un débat Keren Mok, donc mené par Cécile Rousselet. C'est au Cercle Bernard Lazare. Et puis, le 26 juin, c'est au cinéma L'Entrepôt. On va pouvoir découvrir votre film signé Nourrita Vive. Merci beaucoup. On peut aller sur votre
site.
Merci Léa. Nourrita Vive. Au revoir.